Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Houlin, page 82, Daf Pebet. Bonne écoute et bon limoud.
D'Amar Resh Lakish, Omer Haya Rabbi Shimon. Rabbi Shimon avait l'habitude de dire Para Nifdit al Gabe Marachata, la vache rousse peut être rachetée, même après qu'elle a été égorgée et qu'elle a été déposée sur son bûcher, si on en trouve une qui est plus belle. Et c'est la seconde, donc, qui sera offerte à sa place. Donc, puisqu'il y avait un moment où elle aurait été permise à la consommation, si on en avait trouvé une autre, on l'aurait donc rachetée. Nous considérons que cette vache était susceptible à être consommée, parce que selon Rabbi Shimon, nous considérons que ce qui est destiné à être racheté est considéré comme étant déjà racheté. Par conséquent, l'impureté relative aux aliments s'applique ici. Puisque c'est ainsi, l'interdiction d'abattre un animal à son petit devrait s'appliquer aussi pour la vache rousse. L'Agma répond, Amar Rav Shaman Bar Abba Amar Rabbi Yochanan Parat Chatat Ena Mishnah. Ce cas de la vache rousse concernant l'interdiction d'abattre un animal et son petit n'a jamais été enseigné dans notre Mishnah. En fait, c'est une erreur, parce que même selon Rabbi Shimon, l'interdiction d'abattre un animal et son petit s'appliquera dans le cas de la vache rousse. La Gemara demande, Ve'egla Rufa Lav Shrita Ruyahi, est-ce que le cas cité par la Mishnah de la génisse décapitée, que l'on décapite lorsqu'on découvre un cadavre dont on ne connaît pas l'assassin, la Mishnah dit là aussi que si une personne abat cette génisse et sa mère, selon Rabbi Shimon, l'interdiction d'abattre un animal et son petit ne s'applique pas parce que cette génisse n'est pas destinée à la consommation, et ce, même s'il a été égorgé, selon les Chachamim, l'interdiction ne s'applique pas. La Gemara demande, est-ce que lorsqu'une personne égorge la génisse destinée à être décapitée, est-ce que c'est un abattage qui ne permet pas la génisse à la consommation? Vatnan, pourtant, il est enseigné dans une Mishnah, dans Maserhet Sota Dafmenzaim, Nimtsa Hahoreg Hachelotéaref, si on découvre l'assassin avant que cette génisse n'ait été décapitée, Haegla Tetse Vetir'e Baeder, cette génisse sortira et pourra paître dans le troupeau, autrement dit, elle sera permise. Puisque c'est ainsi, elle ne sera finalement interdite que lorsqu'elle a été réellement décapitée. Si elle a été égorgée, elle devrait donc être permise à la consommation. L'interdiction d'abattre un animal et son petit devrait s'appliquer ici, même selon l'opinion de Rabbi Shimon. L'Akma répond, Amar Rabbi Shimon ben Lakish Mishum Rabbi Anai, Egla Arufa Ena Mishnah. Notre Mishnah n'a jamais enseigné le cas de la génisse décapitée. C'est en fait une erreur, parce que même selon l'opinion de Rabbi Shimon, l'interdiction d'abattre un animal et son petit s'appliquera pour la génisse décapitée. La Gemara demande, « Umiyamar Rabbi Anaï, est-ce que Rabbi Anaï a dit une chose pareille, que le cas de la génisse décapitée citée par la Mishnah est une erreur ?»« Veha Amar Rabbi Anaï, pourtant Rabbi Anaï a dit, « Gvul Shama Atiba, à propos de la génisse décapitée, j'ai entendu une limite à partir de laquelle elle est interdite, même de son vivant, Veshacharti, mais j'ai oublié à partir de quel moment elle est interdite. Venasbin Chavraya Lomar, et mes collègues ont pris l'habitude de dire, Yeridata le Nachal Etan Osrata, lorsqu'on la fait descendre dans la vallée déserte pour la décapiter, c'est à partir de ce moment qu'elle est interdite. Selon lui donc, même lorsqu'on découvre l'assassin avant de l'avoir décapité, si on l'a découvert uniquement après qu'on ait fait descendre cette génisse dans la vallée déserte, elle reste quand même interdite. Veimita, et s'il est vrai que selon Rabbi Anaï, cette génisse décapitée est déjà interdite de son vivant, Lishne, il n'a qu'à répondre, ainsi notre Mishnah, Kan Kodem Yerida, dans la Mishnah de Maserhet Sota, où on dit que la génisse est permise lorsqu'on découvre l'assassin, c'est avant qu'on la fasse descendre dans la vallée déserte. En fait, même s'il est vrai qu'il est enseigné clairement dans la Mishnah qu'elle sera permise s'il n'a pas été encore décapité, mais en fait, puisqu'il y a des Tanaïm qui pensent qu'elle est interdite de son vivant, Rabbi Anaï aurait pu interpréter la Mishnah de la manière suivante, Kan Le'achar Irida, ici dans notre Mishnah, il s'agit d'un cas où l'assassin a été découvert après qu'on ait fait descendre la génisse dans la vallée déserte, à partir de ce moment, elle est interdite, si elle est abattue à ce moment, l'interdiction d'abattre un animal et son petit ne s'appliquera pas ici, selon l'opinion de Rabbi Shimon. L'Agma répond, Amar Rabbi Pinchas Bere de Ravami, Anan Mishneh de Rabbi Shimon ben Lakish Matnenla. cette réponse que nous avons dit précédemment, nous la rédigeons uniquement au nom de Rabbi Shimon ben Lakish et non pas au nom de Rabbi Anaï. La réponse est donc, Egla Arufa et la Mishnah, le cas de la génisse décapitée citée dans notre Mishnah, en fait n'a jamais été cité, c'est une erreur. En la Gemara demande, Amar Ravashi ki avinan be Rav Papi, lorsque nous apprenions la Torah dans le Betamidrash de Rav Papi, Kashalan, nous avons eu la question suivante. Mi Amar Rabbi Shimon ben Lakish Achi, est-ce que Rabbi Shimon ben Lakish a dit une chose pareille, que le cas de la génisse décapitée a été enseigné par erreur dans notre Mishnah, Veha Itmar, pourtant il est enseigné une discussion, Tzipore Metzora, en ce qui concerne les oiseaux que les lépreux doivent amener pour débuter sa purification, mais Matan et Sarin, à partir de quel moment sont-ils interdits? En effet, il y a un des oiseaux qui sera égorgé, tandis que l'autre sera trempé dans un mélange d'eau et du sang du premier oiseau, que le Kohen aspergera en direction du lépreux, puis le deuxième oiseau sera relâché. Donc, à partir de quel moment le premier oiseau qui sera égorgé est interdit? Rabbi Yochanan Amar Mishat Shrita, c'est à partir du moment où le premier oiseau a été égorgé. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Mishat Lekicha, à partir du moment où ils ont été pris ou achetés. Ve'amrinan, et on a dit là-dessus, Maitama de Rabbi Shimon ben Lakish, quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Lakish? D'où sait-il que ces oiseaux sont interdits de leur vivant? L'Agma répond, Gamar Kicha Kicha Me'egla Arufa, il l'apprend d'une Xerashava dont le support est le terme de Kicha, prendre, qui est écrit à la fois au sujet de la génisse décapitée et au sujet de ces oiseaux. Nous apprenons de là que de la même manière que la génisse décapitée est interdite de son vivant, les oiseaux du lépreux sont aussi interdits de leur vivant. Nous voyons donc clairement que selon l'opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, la génisse décapitée est interdite de son vivant. Selon lui donc, il ne peut pas dire que le cas de la génisse décapitée enseignée dans notre Mishnah est une erreur, parce que selon lui, à partir du moment où on la fait descendre dans la vallée déserte, elle est interdite même si on découvre l'assassin. Par conséquent, selon l'opinion de Rabbi Shimon, l'interdiction d'abattre un animal et son petit ne s'appliquera pas. L'Agma répond, et là Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, plutôt c'est Rabbi Chia Baraba qui dit au nom de Rabbi Yochanan et non pas au nom de Resh Lakish, Egla Arufa Ena Mishnah, le cas de la génisse décapitée enseignée par notre Mishnah, en fait, n'y a jamais été enseigné, c'est une erreur, parce que, même selon l'opinion de Rabbi Shimon, l'interdiction d'abattre un animal et son petit s'appliquera pour la génisse décapitée, étant donné qu'elle n'est pas interdite de son vivant avant d'avoir été décapitée. Nouvelle Mishnah. Shnaim Shelakru Para Ubna, deux personnes qui ont acheté respectivement une vache et son petit, Eze Shelakach Rishon, Yishrot Rishon, c'est à celui qui a acheté l'animal en premier qui revient le droit d'abattre son animal en premier, et donc l'autre devra attendre le jour suivant. Ve'im kadam hasheni, mais si le second a devancé le premier, zacha, il a gagné. Dès lors, le premier n'aura pas le droit d'abattre son animal le jour même. L'Agma a dit là-dessus, Amar Rav Yosef, le'inyan dinatnan. Notre Mishnah enseigne des lois d'ordre juridique, c'est-à-dire à savoir quelle est la personne à laquelle revient le droit d'abattre son animal en premier. Donc, s'il se présente devant le tribunal, ce dernier accordera le droit d'abattre l'animal au premier, mais en fait, le second n'a pas d'interdiction d'abattre son animal en ce qui concerne l'interdiction d'abattre un animal et son petit. Tana, il est enseigné dans une braïta qui explique notre Mishnah, In kadam hasheni, si le second a devancé le premier, hareze zariz veniskar, c'est une personne zélée et elle a gagné. La Gemara explique, zariz, nous considérons que cette seconde personne est zélée de loi Abadissoura, car il n'a transgressé aucune interdiction, Veniskar, et en plus il a gagné des Kahilbisra, parce qu'il peut manger la viande le jour même, il n'aura pas besoin d'attendre le lendemain pour abattre son animal. Nouvelle Mishnah, Shachat Para Vachakar Shnebanea, une personne qui a abattu une vache, puis après il a abattu ses deux petits le jour même, il a donc transgressé deux fois l'interdiction d'abattre un animal et son petit, Sofeg Shmonim, il lui sera infligé deux fois la peine de flagellation. Il méritera donc 80 coups, ou plutôt 78 coups. Shachat shne baneha v'achakar shachata, mais s'il a en premier abattu les deux petits, puis après il a abattu la mère, sofeg et arbaïn, il lui sera infligé une seule peine de flagellation, donc de 40 coups, ou plutôt 39 coups. Et cela, parce qu'il n'a transgressé l'interdiction qu'en abattant la mère en dernier. Il n'a donc fait une seule action pour transgresser cette interdiction. Shachata ve'ebita ve'ebabita, s'il a abattu la vache et sa fille, puis la petite fille, sofeg shmonim, il lui sera infligé deux peines de flagellation pour avoir transgressé deux fois l'interdiction d'abattre un animal et son petit. En effet, il a abattu la mère et sa fille, puis après, en abattant la petite fille, il a donc abattu à nouveau un animal dont la mère a été abattue le jour même. Il a transgressé donc ces deux interdictions par deux actions distinctes. Il lui sera infligé deux peines de flagellation. Shachta ve'ebat bita ve'achakar shachat bita. S'il a abattu la vache, puis sa petite fille, puis après il a abattu la fille, donc est à la fois la fille de la première et la mère de la seconde, sofeg et arbaïm, il lui sera infligé une seule peine de flagellation, parce qu'il n'a transgressé cette interdiction en ne faisant qu'une seule action. Sumchus omer mishum rabbi meir sofeg shmonim, dans ce cas, il lui sera infligé deux peines de flagellation. La Gemara expliquera. Nous avons vu dans la Mishnah que si la personne abat la mère en dernier, il a aussi transgressé l'interdiction d'abattre un animal et son petit. Or la Gemara demande à Maï, pourquoi dans ce cas transgresse-t-il l'interdiction? Otov et Benoît Marachamana, la Torah dit clairement dans Vaïka Kavet, lui et son petit, Velo Beno Veoto, et donc non pas le fils, puis après la mère. Finalement, en abattant la mère le dernier, il ne devrait pas avoir transgressé l'interdiction. La Gemara répond, Los al Kadatar, il ne peut pas te venir à l'esprit une chose pareille, d'Etania, car il est enseigné dans une Braïta. Otto Bet Beno, lorsque le Pasuk dit qu'il est interdit d'abattre un animal et son petit, Enliela, Otto Bet Beno, nous l'apprenons de ce Pasuk que l'interdiction d'abattre un animal, puis après d'abattre son petit, Otto Bet Imo Minaim, d'où sait-on qu'il y a aussi une interdiction d'abattre un animal et sa mère, donc d'abattre la mère en dernier. La Braïta répond que Shehu Omer, Lotishratu, lorsque le Pasuk dit vous n'abattrez pas au pluriel, Harekan Shnaim, le Pasuk s'adresse à deux personnes. Il y a donc une possibilité que deux personnes transgressent cette interdiction. Alors que si une personne ou deux personnes abattent respectivement la mère et le petit, il n'y a qu'une personne qui a transgressé cette interdiction. Haketsad, comment appliquera-t-on ce Pasuk où nous voyons que deux personnes transgressent l'interdiction? La Braïta répond, Echad Hashochet et Apara, si une personne abat une vache, Vechad Hashochet et Ima, et une autre personne abat sa mère le jour même, Vechad Hashochet et Bena, puis une troisième personne abat le fils, donc le petit, de la première vache, Shnaim Haharonim Chayavim, les deux dernières personnes se sont rendues coupables d'avoir transgressé l'interdiction d'abattre un animal et son petit. Nous voyons donc que même lorsqu'une personne abat la mère en dernier, il a aussi transgressé cette interdiction. Nous tournons la page à Daf Pebet Amoud Bet.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Daf Pebet Amoud Bet. À la Guémara demande, Haïmi Vaïle, le gouffet, nous avons besoin de ce terme Lotishratu pour nous enseigner l'interdiction qu'il est interdit d'abattre un animal et son petit. Ce terme n'est pas en plus. L'Agma répond, Imken, si le Pasuk voulait uniquement nous enseigner l'interdiction, l'Irtov Lotishrot, il aurait pu se contenter d'écrire ce terme au singulier, tu n'abattras pas. Mai Lotishratu, que veut dire le Pasuk lorsqu'il s'exprime au pluriel en disant, vous n'abattrez pas? Cela veut dire que deux personnes transgressent cette interdiction, donc même celui qui abat la mère en dernier, comme nous l'avons vu. L'Agma demande, va katemi va ele. Pourtant, nous avons besoin encore de ce pasouk, donc de cette expression au pluriel, de i katavrahamana lotishrot, parce que si la Torah s'était contentée de s'exprimer au singulier en disant, tu n'abattras pas, havamina, j'aurais cru, chad in, une personne, oui, transgresse cette interdiction, tre lo, deux personnes, non, ne transgressent pas cette interdiction. Autrement dit, si une personne abat la mère et l'autre le petit, le second n'a pas transgressé l'interdiction. Katav rachamana lotishratu, c'est pour cela que la Torah s'est exprimée au pluriel en disant vous n'abattrez pas, va filoutrer que même si deux personnes abattent respectivement l'animal et son petit, l'interdiction est transgressée. L'Agma répond, imken, si la Torah voulait simplement nous enseigner que deux personnes sont aussi concernées par cette interdiction, l'irtov lo yishachatu, la Torah aurait pu se contenter de s'exprimer de cette manière en disant qu'un animal et son petit ne soient pas égorgés le même jour. On aurait compris donc que soit si c'est une personne qui le fait, soit si c'est deux personnes qui l'ont fait, l'interdiction est transgressée. Mai lo tishratu. Que veut dire la Torah lorsqu'elle s'exprime en disant « Vous n'abattrez pas » en s'adressant directement à deux personnes ?« Shma mina » tenter. Nous pouvons déduire de là deux choses. Premièrement, que lorsque cette interdiction est transgressée par deux personnes, elle est aussi transgressée. Deuxièmement, lorsqu'une personne abat la mère en dernier, il a aussi transgressé cette interdiction. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Shachata ved badbita » etc. Si cette personne a égorgé un animal et sa petite fille, puis après, il a égorgé la fille du premier animal. Ainsi donc, il se trouve qu'il a transgressé à deux reprises l'interdiction d'abattre un animal et son petit. En effet, il a abattu l'animal et sa fille. Il a aussi abattu la petite fille, qui est la fille donc de la seconde bête. Selon le premier auteur de la Mishnah, il ne mérite qu'une seule peine de flagellation, puisque finalement, l'interdiction a été transgressée lorsqu'il a abattu le dernier animal, qui était la fille de la première, la mère de la seconde, tandis que selon son cousse, il sera condamné à deux peines de flagellation, puisque finalement, il a transgressé deux interdictions. Son cousse discute aussi sur le premier cas de la Mishnah, dans le cas où il a égorgé les deux petits en premier, puis après, il a égorgé la mère. Selon son cousse, là aussi, il sera condamné à deux peines de flagellation, parce qu'il a transgressé deux interdictions. Alors, l'Agmara dit là-dessus, « Amarle, Abaye le Rav Yosef, Abaye a posé la question suivante à Rav Yosef, Maïtama de Sumkous, quelle est la raison de Sumkous? Pourquoi selon lui, cette personne est condamnée à deux peines de flagellation? Kasava Sumkous, est-ce que Sumkous pense que Achal Shne Zete Chelev Behelem Had, celui qui aurait mangé deux morceaux de graisse, ayant chacun un volume équivalent à celui d'une olive, et ce dans l'espace d'un seul oubli, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas rappelé entre-temps que cette graisse est interdite, Chayav Shte Chataot, il a l'obligation d'offrir deux korban khatat, parce que finalement, il a transgressé deux interdictions. En effet, il a consommé deux morceaux de graisse. Ou bedinuhu de lishme inan be'alma. En fait, il aurait dû nous enseigner son opinion ailleurs. Donc, pour nous enseigner que dans le cas où il a transgressé deux interdictions identiques dans l'espace d'un seul oubli, il est condamné à deux peines, ou il a l'obligation d'offrir deux korban khatat, selon le cas. Et la raison pour laquelle il nous a enseigné son opinion ici, dans le cadre de l'interdiction d'abattre un animal et son petit, c'est pour nous enseigner la puissance de l'opinion des Chachamim, des Afalgav, des Goufin, Mouchlakim, parce que selon eux, bien qu'il s'agisse de deux corps différents, c'est-à-dire qu'il s'agisse de deux interdictions transgressées par le moyen de deux corps différents, en ayant abattu deux animaux, on pourrait penser donc que ces deux interdictions transgressées ont une importance particulière pour pouvoir condamner le contrevenant à deux peines. Quand même, patre rabbanan, les chachamim, l'exemple de deux peines, selon eux donc, il n'est condamné qu'à une seule peine. Odima, ou bien nous dirons, kasava sumkous, sumkous pense, achal shnezete chelev beele mechad, celui qui mange deux morceaux de graisse ayant chacun un volume équivalent à celui d'une olive dans l'espace d'un oubli, et non chayav el achat, il n'aura l'obligation que d'offrir un seul korban khatat, puisque finalement il s'agit de la même interdiction. Et ici, la raison pour laquelle, selon Sumkous, le contrevenant est condamné à deux peines de flagellation, c'est parce qu'il s'agit de deux corps différents. Ces deux interdictions transgressées donc ont une importance particulière pour condamner le contrevenant à deux peines. À Marley, Rav Yosef a répondu à Abaye, « In, oui, kasavar, sumkous pense, achal shnezete chelev behelem achad, si une personne mange deux morceaux de graisse ayant chacun un volume équivalent à celui d'une olive dans l'espace d'un seul oubli, il ne s'est pas rappelé entre temps qu'il s'agit de graisse interdite, chayav shtechatot, il aura l'obligation d'offrir deux korban khatat, parce que finalement, nous considérons qu'il a transgressé deux interdictions. Mimai, d'où le sait-on ? Il répond, nous lisons selon la note marginale, Midetania, de la Braïta qui enseigne la chose suivante. Hazorea kilaim kilaim, celui qui sème un mélange de graines, et à nouveau il sème un mélange de graines, loke, il sera condamné à la flagellation. Rabbi Yosef demande, Mai loke, que veut dire la Braïta lorsqu'elle dit qu'il est condamné à la flagellation? Il aima l'Okéachat. Si la Breta veut nous enseigner qu'il est condamné à une seule peine de flagellation, Pshita, il est évident que celui qui sème un mélange de graines est condamné à une peine de flagellation. Veod, et en plus, Mai Kilaim Kilaim. Que veut dire la Breta lorsqu'elle cite le cas d'une personne qui a semé à deux reprises un mélange de graines? Si c'est pour nous dire qu'il n'est condamné qu'à une seule peine de flagellation, il l'est déjà lorsqu'il sème une fois un mélange de graines. Et là, Pshita, plutôt, il est évident, Shtei Malkiot, que la Breita nous enseigne qu'il est condamné à deux peines de flagellation pour avoir semé à deux reprises un mélange de graines. Alors, Ben Mayaskinan, de quel cas s'agit-il? Il est ma bezea charze. Si tu me dis que la Breita parle d'un cas où il a semé deux fois séparément un mélange de graines, ou Bishtei Atraot, et avec deux avertissements, c'est-à-dire qu'à chaque fois il a été averti qu'il serait condamné à la flagellation pour transgresser cette interdiction, Tanina. Cet halakha est enseigné clairement dans une Mishnah, dans Masechet Makot, Daf Kaf Alef, Amud Alef. En effet, la Mishnah dit, Nazir Shahaya Shote Yain Kolayom, une personne qui a fait un vœu d'abstinence pour une période pendant laquelle il n'a pas le droit, entre autres, de boire du vin, et cette personne buvait du vin toute la journée, sans s'arrêter, Enochaya Velachat, il ne sera condamné qu'à une seule peine de flagellation, parce que finalement, il n'a été averti qu'une seule fois qu'il serait condamné à la flagellation pour avoir transgressé cette interdiction. Amroulo altishte veushote. Si les témoins lui ont dit ne bois pas car tu seras condamné à une peine de flagellation et il boit quand même, altishte, puis lui ont averti une nouvelle fois ne bois pas car tu seras condamné à la peine de flagellation veushote et il continue quand même à boire, chayav al kol achad veachad, il sera condamné à une peine de flagellation pour chaque avertissement. Nous voyons donc clairement dans cette Mishnah que pour chaque avertissement, une personne est condamnée, même s'il transgresse à plusieurs reprises la même interdiction. Et là, Pshita, plutôt, il est donc évident, Bepatachat, que la Breita parle d'un cas où il a semé deux fois un mélange de graines en même temps. C'est-à-dire dans le cas où il tenait dans une main un pépin de raisin et un grain de blé, et dans l'autre main, il tenait un pépin de raisin et un grain d'orge, et il les a semés en même temps. Ou Beatrahat, et il n'a fait l'objet que d'un seul avertissement. Et quand même, la Breta nous enseigne donc qu'il est condamné à deux peines de flagellation. Alors la question se pose, Mané, quel est l'auteur de cette Breta? Il est marabanan de pligaleh de Sumkus. Si tu veux me dire que c'est les Chachamim qui sont en désaccord avec Sumkus, c'est impossible, parce que Hashta, si déjà, ou ma hatam de goufi mukhlakim, dans le cas de notre Mishnah, où il s'agit d'une personne qui transgresse deux interdictions par le moyen de deux corps différents, en ayant abattu la mère et la petite fille, puis il a abattu la fille. Il se trouve qu'il a transgressé donc à deux reprises l'interdiction d'abattre un animal et son petit, quand même, Patre Rabbanan, les Chachamim l'exemptent d'une seconde peine de flagellation. Haha, ici dans notre cas, où les interdictions transgressées n'ont pas l'importance de corps séparés, car, comme explique le Rosh Yosef et le Rabbi Kiva Iger, il ne s'agit pas ici de créatures. L'okol sheken, n'est-il pas évident que les Chachamim l'exempteront d'une seconde peine? Et la lave, n'est-ce pas donc Sumkusi? L'auteur de cette Breita est Sumkus. Nous voyons donc de là que celui qui transgresse à deux reprises la même interdiction, même sans avoir été averti une deuxième fois, méritera une seconde peine. L'agma réfute, l'eau, non. Le Olam Rabbanan, toujours pourrais-je te dire que l'auteur de cette Breita, c'est les Chachamim. Et donc en fait, il s'agit d'un cas où il a été averti deux fois, et c'est pour cela qu'il mérite deux peines de flagellation. Cependant, le chidouche de la Breita est le suivant. Umilta agavurche kamashmalan. En passant, la Breita a voulu nous enseigner un autre enseignement, une halakha, de Ika tre gavne kilaim, qu'il existe deux possibilités de transgresser l'interdiction des mélanges relatifs à la vigne. Ou la fouke mid Rabbi Oshia, cela vient contrer l'opinion de Rabbi Oshia, d'Amar Rabbi Oshia, qu'on ne transgresse pas l'interdiction de semer des mélanges dans la vigne, achizra chita useora vecharzan bemapolitiad, jusqu'à ce qu'il sème un grain de blé, un grain d'orge et un pépin de raisin en une fois dans le même coup de main. Kamash malan. C'est pour cela donc que la Breita nous enseigne de Chizara Chita Vecharzan, que lorsqu'il sème un grain de blé avec un pépin de raisin, ou Seora Vecharzan et un grain d'orge et un pépin de raisin, Nami Mechayev, il sera aussi coupable d'avoir transgressé cette interdiction. Autrement dit, selon les Chachamim, en semant une graine avec le pépin de raisin, l'interdiction est transgressée. C'est pour cela donc que cette personne sera coupable d'avoir transgressé deux fois cette interdiction, parce qu'il a semé une première fois un pépin de raisin avec un grain de blé, et une seconde fois un pépin de raisin avec un grain d'orge. La Gemara dit, Tashma vient écoute une preuve d'une Mishnah qui est enseignée plus loin, Daf Tzadevav, concernant le guidanaché, le nerf sciatique, qui est interdit à la consommation. Alors la Mishnah dit, Achal mise kazaït ou mise kazaït, si une personne a mangé de celui-ci, c'est-à-dire du nerf sciatique droit, un volume équivalent à celui d'une olive, et de celui-ci, c'est-à-dire du nerf sciatique gauche, un volume équivalent à celui d'une olive, Sofeg Shmonim, il lui sera infligé 80 coups, ou plutôt 78, c'est-à-dire deux peines de flagellation. Rabbi Yehuda Omer, Eno Sofeg Ela Arbaim, il ne lui sera infligé que 40 coups, ou plutôt 39 coups, c'est-à-dire une seule peine de flagellation. Et cela parce que, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, seul un seul de nerf sciatique est interdit, et il est en doute, est-ce que c'est le droit ou le gauche? Finalement, cette personne n'a transgressé qu'une seule interdiction. La Gemara demande, Hechidami, comment se présente ce cas? Il est ma baiser à Charzé, s'il s'agit d'un cas où il a mangé ces deux morceaux de nerf sciatique l'un après l'autre, ou bichté à Torot, et cette transgression a fait l'objet de deux avertissements séparés. Maïta ma de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui dit qu'il est condamné à une peine de flagellation? Hatrat Safeki, finalement, cet avertissement est un avertissement en doute. En effet, puisque selon l'opinion de Rabbi Yehuda, nous ne savons pas quel est le nerf sciatique interdit, chaque avertissement est le sujet d'un doute. Veshaminan le Rabbi Yehuda, nous avons entendu que l'opinion de Rabbi Yehuda est de Amar, qui dit Hatrat Safek lo shema hatra. Un avertissement qui est en doute n'est pas considéré comme étant un avertissement. Une personne qui transgresse l'interdiction n'est donc pas condamnée. D'Etania, car elle est enseignée dans une braïta. Il s'agit d'une femme qui s'est mariée dans les trois mois qui suivent son divorce, et elle a eu un enfant au bout de sept mois. Nous sommes en doute, est-ce que l'enfant est le fils du premier père ou du second? En la braïta dit, Hika etze vechazar vehika etze, si cet enfant a frappé un des pères, puis après il a frappé le second, qu'il est l'etze vechazar vekil est l'etze, ou bien s'il a maudit un des pères, puis l'a maudit le second, ou bien s'il les a frappés les deux en même temps, en les blessant, ou bien s'il les a maudits les deux en même temps, il est coupable d'avoir transgressé l'interdiction de blesser ou de maudire son père, il sera condamné à mort. Rabbi Yehuda Omer, s'il les a frappés ou maudits en même temps, il sera coupable d'avoir transgressé cette interdiction, mais s'il les a frappés ou maudit l'un après l'autre, il sera exempté. Et cela parce que selon l'opinion de Rabbi Yehuda, l'avertissement concernant la transgression de cette interdiction est en doute, parce qu'on ne sait pas quel est le père véritable. Cet avertissement n'est pas valable, on ne peut donc pas condamner le contrevenant. Tandis que selon les Chachamim, l'avertissement en cas de doute est considéré comme étant un avertissement. Si toutefois nous sommes persuadés qu'il a transgressé l'interdiction, il sera donc condamné. En tout cas, puisque selon l'opinion de Rabbi Yehuda, un avertissement en cas de doute n'est pas considéré comme étant un avertissement, il ne peut pas s'agir dans la Mishnah d'un cas où la transgression de l'interdiction de manger du nerf sciatique a fait l'objet de deux avertissements séparés, puisque chacun de ces avertissements est en doute, comme nous l'avons expliqué. Et la Pshita, plutôt il est évident, Bevatachat, il s'agit d'un cas où il a mangé ces deux morceaux de nerf sciatique provenant du nerf sciatique droit et du nerf sciatique gauche en même temps, ou Beatra Achat, et cette transgression a fait l'objet d'un seul avertissement. C'est pour cela que, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, il sera condamné à une peine de flagellation, selon les Chachamim, à deux peines de flagellation, parce que les deux nerfs sciatiques sont interdits. Alors la question se pose, Uman Tanakama, quel est le premier auteur de la Mishnah? Il est ma Rabbanan de Pliga, l'Eh de Sumkus, s'il s'agit des Chachamim qui sont en désaccord avec Sumkus dans notre Mishnah. Hashta, si déjà, Uman Hatam, là-bas concernant l'interdiction d'abattre un animal et son petit de Goufim Mouchlakim, où il s'agit de deux corps séparés, c'est-à-dire cette interdiction a l'importance de deux corps séparés, parce que l'interdiction est transgressée par le moyen de deux corps, c'est-à-dire la fille et la petite fille du premier animal. Patre Rabbanan, quand même, les Chachamim l'exemptent d'une seconde peine de flagellation. Haha, ici, où l'interdiction n'a pas l'importance de corps séparés, parce que comme nous l'avons expliqué précédemment, selon le Rabbi Akiva Eiger, cette importance n'existe que lorsqu'il s'agit d'une créature vivante. Le Kol Sheken, n'est-il pas évident que les Chachamim l'exempteront d'une seconde peine de flagellation? Et la lave, n'est-ce pas donc Sumkusi? L'auteur de cette Mishnah est Sumkus. De là, nous apprenons que lorsqu'une personne transgresse deux interdictions dans le cadre d'un seul oubli ou à la suite d'un seul avertissement, même s'il ne s'agit pas d'une interdiction qui a l'importance de deux corps séparés, cette personne sera condamnée à deux peines. Bagma répond, Lo, non. Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah. Le Olam Beze Acharze. Toujours pourrais-je te dire que la Mishnah parle d'un cas où cette personne a mangé les deux morceaux de nerf sciatique l'un après l'autre, et donc cette transgression a fait l'objet de deux avertissements. Verabanan, et la Mishnah suit l'opinion des Chachamim. Behaitana, et l'auteur de cette Mishnah, Savarla, qui idartana de Rabbi Yehuda, pense comme l'autre version qui rapporte l'opinion de Rabbi Yehuda. De Amar Hatra Tsafek Shematra, selon lui, un avertissement en cas de doute est considéré comme étant un avertissement. Par conséquent, si nous sommes persuadés que cette personne a transgressé l'interdiction, il sera condamné donc à une peine de flagellation. De Tania, car il est enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Shemot Yudbet concernant le Korban Pessah. Le pasouk dit L'ototiru mimenu ad boker, ne laissez pas du sacrifice jusqu'au matin, vehanotar mimenu ad boker, et ce qu'il reste du sacrifice jusqu'au matin, ba'esh tisrofu, vous le brûlerez par le feu. Nous passons à Daf Pegimel Amud Aleph.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.